au quotidien avec Clotilde Seil.
Bonjour mes amis, nous sommes aujourd'hui le vendredi 19 septembre 2014. Eh bien, c'est la fin du suspense en Écosse. On a appris ça peut-être, avez-vous suivi ça un petit peu cette nuit? En tout cas, il en sera évidemment beaucoup question dans les journaux. Alors, tout le monde s'exprime à peu près ou presque sur le sujet, j'ai décidé de faire un spécial Écosse dans la première demi-heure de la deuxième heure. Vous me suivez? C'est-à-dire que là, il est 10h, à entre 11h et 11h30, spécial Écosse. Si vous nous prenez en reprise, il sera donc pour vous entre 19h30 et 20h ou encore le soir entre minuit et minuit 30. Ou sinon, je vous rappelle que vous pouvez écouter l'émission à peu près n'importe quand, de toute façon en allant sur le site canalm.org. Après, il suffit de cliquer sur Au quotidien. Et puis voilà, le tour est joué. Alors, aujourd'hui, il sera encore question des péages, des salaires des médecins, du gain des femmes, de Guy Turcotte, des coupures, de Madame Marois, la femme Téflon, de la ville de Gatineau, qu'on se demande bien où c'est qu'elle s'en va. De quoi est-ce qu'on va parler aussi? Ah, j'ai imprimé deux fois la même chose. Alors, je vous l'ai dit, en seconde partie, il y aura l'Écosse. Et puis, il y aura quelques sujets. On retrouve entre autres José Blanchette qui nous parle de traitement de cancer. Et au culturel, on parlera beaucoup de théâtre et de cinéma. Et bien sûr, on finira avec quelques mots de sport. Alors, on commence aujourd'hui, en ce vendredi 19 septembre, avec la une de la presse, tout en haut, le suspense écossais. Les Écossais ont scellé leur sort hier au terme d'une consultation historique qui devait connaître son dénouement au cours de la nuit. Lisez ce matin dans la presse les comptes rendus de nos envoyés spéciaux Yves Boisvert et Jean-Christophe Laurence. Alors évidemment, j'aurai l'occasion de vous lire cette chronique-là en début de deuxième heure. Malgré des travaux de 45 millions il y a 5 ans, le pont de Lavin est à asphalter de nouveau. Le ministère des Transports devra asphalter de nouveau le pont Arthur Branchaud l'été prochain, 5 ans après l'avoir reconstruit presque à neuf. Aïe, aïe, aïe. Exclusif en théâtre, je vous en parle dans la deuxième heure. Albertine fera le tour de la France. Albertine en 5 temps après Les Belles-Sœurs. Et puis, péage sur les ponts, je vais tout de suite vous en parler. Après avoir regardé ce que nous donnait la une de la presse ce matin, une photo de M. Alex Galchenyuk torse nu. Beau petit bébé quand même, hein, ce M. Galchenyuk-là. Alors qu'ils ont commencé à s'entraîner et à montrer de quoi ils étaient capables et s'ils étaient assez en forme. Et puis, État islamique, attentat déjoué en Australie. Les djihadistes arrêtés avaient l'intention de filmer la décapitation d'un civil. Alors, je vous le rappelle, je ne parlerai pas de l'Écosse tout de suite. Je vais réserver ça pour le début de la deuxième heure de cette émission. Mais là, pour l'instant, parlons de péage. Tiens, commençons par une caricature, celle de Baudet dans le Journal de Montréal. Nous sommes dans un bureau. Alors, il y a deux personnes qui sont face à face, un homme à son bureau et l'autre qui est en face. Et il y en a un qui lui dit « Alors, monsieur, vous voulez emprunter à la banque pour… » Et l'autre lui dit « Ben, pour emprunter le nouveau pont Champlain. » Alors, comment tuer Montréal en 15 péages? Les conservateurs comptent administrer une dose de poison à la métropole en lui enfonçant dans la gorge un péage qu'elle ne veut pas, écrit François Cardinal. Il y a Alain Dubuc qui, de son côté, dit que c'est facile de dire non au péage. Et il dit ceci. Les nouvelles informations rendues publiques cette semaine sur le péage du futur pont Champlain ont soulevé un tollé et révélé l'existence d'une remarquable unanimité. Tout le monde, chose rare au Québec, est contre ce péage. Le gouvernement Couillard, les partis d'opposition, le maire Coderre, les maires de banlieue. Or, tout le monde a oublié une donnée pourtant incontournable de ce dossier. Le pont Champlain est un pont fédéral. C'est le gouvernement fédéral qui le construira. Et les travaux seront financés à 100% par des fonds fédéraux. Il n'est pas déraisonnable, trouve donc M. Dubuc, que l'ordre de gouvernement qui paye l'ouvrage ait son mot à dire sur son mode de financement. Il n'est pas étonnant non plus qu'un gouvernement conservateur privilégie une formule qui assure l'autofinancement. N'oublions pas que l'idée d'un péage n'a rien d'hérétique. Les deux derniers ponts de la région montréalaise, ceux des autoroutes 25 et 30, exigent un péage. Et le milieu montréalais réfléchit, depuis des années, à imposer une forme de tarif sur les axes d'entrée de la métropole. Au lieu de s'indigner, dit M. Dubuc, mieux vaut chercher une solution d'ensemble et une politique globale sur la façon de tarifer les entrées à Montréal afin de mieux répartir les coûts et d'éviter une crise de circulation. On pourrait, par exemple, imposer des tarifs modulés et modestes sur tous les ponts. François Cardinal, lui, dans le même journal, dit « Au secours !» Au secours, un péage sur Champlain fragiliserait Montréal, mais un péage sur chaque pont l'enverrait droit aux soins intensifs. Je ne veux pas être alarmiste, dit Cardinal, mais il est alarmant de voir les élus à Ottawa et à Montréal jouer aux apprentis sorciers en mélangeant toutes sortes de solutions sans s'interroger sur l'état de santé du patient. La métropole a un centre-ville qui se porte plutôt bien, c'est vrai. Les tours grimpent, les citadins se multiplient, mais il suffit de prendre un peu de recul pour constater que tout autour de l'île de Montréal, il y a un monde qui, lui, se porte encore mieux. Le boom démographique, il a lieu dans la couronne nord et sur la rive sud. La création d'emplois, elle est plus forte en banlieue. Et la majorité de la population de la région, elle habite désormais à l'extérieur de l'île. La banlieue a besoin de Montréal, c'est sûr, mais Montréal a aussi besoin de la banlieue. Un péage. François Cardinal poursuit en disant « L'implantation de péages sur tous les ponts est une vieille idée, mais surtout une mauvaise idée. Pire encore qu'un péage unique sur le Champlain 2. L'autonomisation de la banlieue est déjà en cours. Les habitants des couronnes ont de moins en moins de raisons de traverser les ponts en dehors de leur navette quotidienne. Un film, un spectacle, un resto? Plus besoin de se chercher du stationnement rue Sainte-Catherine. On retrouve tout ça au Carrefour Laval, aux promenades Saint-Bruno et au 10-30. » L'offre est telle aujourd'hui que même les Montréalais optent en grand nombre pour l'Apple Store de Laval ou le Burgs de Brossard plutôt que de visiter leur succursale dans l'île. Donc, quel sera l'impact des péages sur 15 ponts qui donnent accès à l'île en excluant celui de la 25? Ils ne feront qu'accélérer un phénomène déjà en cours, et ce, même si on imposait un tarif aux seules heures de pointe. Les banlieusards ne se demanderont pas si c'est la bonne journée ou la bonne heure pour traverser. Ils éviteront simplement de le faire. Les oreilles de Gaëtan Barrette vont certainement lui siffler. On arrive là dans l'éditorial de M. André Pratt. Nous sommes toujours dans la presse. On n'a plus les claques qu'on avait. La présidente de la Fédération des médecins spécialistes du Québec, Diane Francoeur, a accusé le ministre de la Santé, Gaëtan Barrette, de négocier à coups de claques au visage. Il est sidérant de voir à quel point les spécialistes sont déconnectés de la réalité, dit André Pratt. Les ententes de rémunération conclues par les fédérations de médecins et le gouvernement du Québec prennent fin en 2015. Pour les années 2014-2015, 2015-2016, la masse salariale des médecins devait augmenter de 713 millions. De plus, Québec doit 440 millions aux médecins en somme dont le versement a été retardé. Équilibre budgétaire oblige, le gouvernement Couillard demande aux médecins d'étaler sur 9 ans le paiement de ce 1,2 milliard. Il est incompréhensible. Non, pas du tout. C'est le contraire. Il dit « il est compréhensible que les médecins trouvent la pilule dure à avaler ». Un contrat est un contrat, non. Néanmoins, l'état des finances publiques exige que tous fassent des sacrifices. Des programmes gouvernementaux dont profite la classe moyenne et les plus démunis seront comprimés. Des retraités verront l'indexation de leurs prestations suspendue. En de telles circonstances, les mieux nantis devraient consentir sans rechigner à faire leur part. Grâce aux ententes conclues en 2007, les médecins québécois ont profité d'un rattrapage significatif de leur rémunération par rapport à celle de leurs confrères des autres provinces. Depuis 2006, leurs revenus ont bondi de 50 %. Le revenu moyen des médecins de famille, net des frais de cabinet, est aujourd'hui de 219 000 $, celui des spécialistes atteint 356 000. En cette période difficile, les médecins ont un devoir de solidarité envers les contribuables qui paient leur salaire. Aux spécialistes qui gagnent 300, 400, voire 500 000 par année, il n'est certainement pas excessif de demander de différer les hausses de revenus convenues en des temps moins sombres. Petite caricature, avant de faire une petite pause musicale, M. Barrette nous est présenté à hauteur d'épaule par Chapelot dans la presse de ce matin. Il est évidemment énorme, et très énorme, et très large. Et puis à côté, il y a Mme Francoeur, qui a l'air toute petite contre son épaule et qui frappe avec ses petits poings sur M. Barrett et qui fait grrrr. Voilà, ça s'en est une. Il y en a une autre où M. Barrett se retrouve dans le bureau du psy, ça c'est coté dans le soleil. Et alors, il a l'air complètement dépité, tout en sueur, et il dit à son psy « Je me bats contre des idées que je défendais, je deviens fou. » Et le psy qui lui dit « Ce n'est pas de la folie, mon ami, ça s'appelle de la politique. »
Fils de montagne et de forêt, en territoire de survenants, au fil des labours, des rivières, un sentier vert, le Saint-Laurent. Sa voix de terre et de sillon, comme un printemps, comme une amie. Ses yeux de mer et d'horizon sèment l'espoir d'une patrie. Pour supporter le difficile et la colère de l'Alouette, il y a toujours de l'île. Le vieux continent l'appelle, au loin on entend son écho, des chansons comme des étincelles, un soir d'hiver avec Bozo. La contumace encore hier, dans nos maisons la peur retient. Le loup lui quitte son repère, sous l'étendard il serre le poing. Pour supporter le difficile et la colère de l'Alouette, il y a toujours le tour de l'île, le tour de l'île. Pieds nus dans l'aube, point à la pose, ses vieux souliers au bout du chemin. Le roi heureux se repose, le petit bonheur est orphelin. Pour supporter le difficile et la colère de l'Alouette, il y a toujours le tour de l'île. Pour supporter le difficile et la colère de l'Alouette, il y a toujours le tour de l'île. Pour supporter le difficile et la colère de l'Alouette, il y a toujours le tour de l'île.
Oui, magnifique chanson de Monsieur Séguin, Félix, Pieds nus dans l'aube, qui nous rappelle évidemment le titre de cet ouvrage écrit par Félix Leclerc, qu'on trouve d'ailleurs au SQLA, hein, si à un moment donné vous avez envie de vous replonger dans cette œuvre-là. Alors, à la une du Devoir ce matin, ce vendredi 19 septembre, les Écossais ont fait leur choix. Ça tient, je dirais quoi, un quart de page. Depuis Édimbourg, on nous présente le journaliste Marco Fortier qui fait état de l'avance du non. Je vous rappelle à ce sujet que c'est au début de la deuxième heure que je ferai un spécial Écosse qui va durer à peu près 20-25 minutes par là. Commission Charbonneau, un changement de culture contre vents et marées à la CCQ. La PDG de la Commission de la construction Québec, Diane Lemieux, a dû tenir tête à son propre conseil d'administration pour amener un nécessaire changement de culture dans l'industrie. La tutelle menace la CSDM. La situation financière de la commission scolaire sera analysée par Québec. Et puis cette photo est extraordinairement belle. Une photo de la péninsule de Melville dans l'Arctique canadien. C'est le Nunavut vu du ciel, le plus jeune territoire du Canada capté dans l'œil du photographe Mario Faubert. Mario Faubert est au départ, il est pilote de formation et photographe, et il a collaboré notamment durant 5 ans avec le célèbre photographe aérien Yann Arthus Bertrand. Alors, il a eu l'idée, alors qu'il photographiait la Terre, vue du ciel aux quatre coins du globe, eh bien, de revenir au bercail pour photographier son propre pays vu des airs. Et ce que ça donne, c'est absolument extraordinaire. C'est de toute beauté, mélange de glaciers, de terre, vol d'oies. Enfin bon, c'est vraiment sublime. Alors, dans Le Devoir, j'ai retenu pour vous 2 choses. D'abord, décidément, le pont Champlain les fait parler, tous et toutes. Notamment, Jean-Robert Sans-Façon, dans son éditorial ce matin, a écrit ceci. « Culpabilité partagée. Combien coûtera un passage sur le pont Champlain ?» S'il faut croire le directeur parlementaire du budget, le DPB, à Ottawa, le tarif devrait varier entre 2,60 et 3,90 du passage, selon que les coûts du projet atteindront 3 ou 5 milliards de dollars. Tous les politiciens québécois s'y opposent, mais ils en sont aussi un peu responsables. En simulant les mouvements de clientèle causés par l'ajout d'un péage sur le futur pont Champlain, le directeur parlementaire du budget, Jean-Denis Fréchette, constate en toute logique que plus le pont coûtera cher, plus il faudra imposer un tarif élevé qui entraînera un déplacement d'usagers, avec les conséquences que l'on devine sur la congestion sur les autres ponts. Mais le cercle vicieux ne s'arrête pas là, puisque cette baisse de clientèle sur le pont Champlain forcera l'exploitant à demander un tarif encore plus élevé, qui ne fera qu'aggraver les choses pour tout le monde, sauf pour les chanceux qui profiteront de la nouvelle structure grâce à leur capacité de payer. En sera-t-il de même pour le futur pont qui reliera Windsor et Détroit et dont Ottawa s'est déjà engagé à financer les voies d'accès du côté américain et même le plateau des douanes parce que Washington et l'État du Michigan refusent d'assumer leur part? Les élus de la région de Montréal et ceux du gouvernement du Québec ont donc raison de s'opposer à la décision du gouvernement Harper de faire payer la totalité des coûts du futur pont Champlain aux seuls usagers. D'autant plus qu'en imposant un péage sur un pont aussi achalandé, Ottawa coupe l'herbe sous le pied aux décideurs locaux qui songent depuis au moins 20 ans à rétablir les péages routiers pour freiner l'étalement urbain, réduire la congestion et financer le transport en commun. À trop vouloir épargner la sensibilité des usagers de la route qui sont aussi des électeurs, les élus provinciaux du Parti québécois autant que du Parti libéral ont perdu l'initiative du jeu sur leur propre territoire au profit des conservateurs fédéraux qui, eux, n'ont rien à perdre sur la scène électorale montréalaise. Un péage provincial sur les ponts, on oublie ça. Or, qui osera désormais imposer un autre tarif calculé selon le nombre de kilomètres parcourus, par exemple, alors que les automobilistes des deux rives devront affronter les péages de Champlain, de l'A30 et de l'A25? Et puis c'est vendredi, comme tous les vendredis, c'est Mme Lise Payette dans Le Devoir qui s'exprime. La cause des femmes lui tient toujours autant à cœur. Je pense que ce sera comme ça jusqu'à la fin de sa vie. Et encore cette fois-ci, encore ce vendredi, elle y revient. Et elle parle des gains des femmes en péril. Voici quelques larges extraits de sa chronique. Elle dit « De quoi avait-elle besoin ici au Québec, les femmes, pour arriver à mener de front leur rôle d'épouse, de mère et de citoyenne qui désirent participer à l'avancement de la société dans laquelle elles vivent ? Elles ont fini par définir leurs besoins et elles ont foncé, persuadées d'arriver à tout faire, ce qu'on attendait d'elles, sans que la terre cesse de tourner. De quoi avaient-elles besoin ? La liste était longue. Elles avaient besoin que les femmes aient un accès égal aux études supérieures pour qu'on ne dise plus jamais que les études des filles n'étaient pas à la hauteur de celles des garçons. Elles avaient besoin d'un accès à tous les niveaux du monde du travail et qu'on cesse de les confiner au rôle de secrétaire sans aucune possibilité de franchir le seuil de la haute direction. Elles ne demandaient pas de faveur. Elles réclamaient la justice. Elles réclamaient des garderies où leurs enfants seraient en sécurité pendant qu'elles allaient travailler. Elles réclamaient déjà un congé parental permettant aussi au père de faire la connaissance de ses enfants. Elles voulaient s'assurer de retrouver leur travail si elles devaient s'absenter pour mettre des enfants au monde et ne voulaient pas se faire mettre à la porte, comme on le faisait encore pour les enseignantes, parce que les enfants ne devaient pas voir ça. Et elles réclamaient aussi le partage des tâches à la maison avec leurs compagnons, rien de moins. Ce qu'elles ont du mal à comprendre, c'est pourquoi, quand une chose est gagnée, elle ne l'est pas forcément pour toujours. L'attaque de plein front que mène en ce moment le gouvernement libéral de Philippe Couillard sous le couvert du redressement de la situation financière difficile de l'État va frapper directement au cœur même des gains des femmes. Pour ma part, je n'ai jamais pensé de répéter aux femmes qu'il suffit d'un changement de gouvernement, d'un Premier ministre déconnecté de la réalité de la vie quotidienne, de la folie du pouvoir auquel les hommes sont si sensibles, pour que les acquis des femmes fondent comme neige au soleil. Les trois plus gros postes du gouvernement du Québec sont actuellement entre les mains de trois docteurs dont on ne peut pas penser sérieusement qu'ils sont très connectés sur la vie difficile du monde ordinaire. « Ne me faites pas rire », écrit encore Lise Payette, « ils s'en foutent, ils sont élus pour 4 ans. » Si vous faites partie de ceux et celles qui ont voté pour le Parti libéral en avril dernier, vous devez vous poser de sérieuses questions sur votre capacité de faire des choix éclairés sur le plan politique. Après 9 ans au pouvoir, alors que la commission Charbonneau commençait déjà à déterrer les squelettes du PLQ, vous avez voté pour leur retour au pouvoir, et assez nombreux pour former un gouvernement majoritaire. Ils sont donc là pour 4 ans grâce à vous tous. Imaginez les dégâts qu'ils peuvent faire en 4 ans. Je ne le souhaite pas, poursuit Lise Payette. J'aimerais mieux qu'ils marquent l'histoire par leur courage et leurs idées lumineuses que par leurs multiples coups de bistouri sur un malade qui n'est même pas sous anesthésie. Couper pour couper, il faudrait commencer par leur couper le sifflet à nos brillants élus. Le déficit zéro, ça a déjà été essayé. Vous en souvenez-vous ? On se rappelle surtout les effets néfastes que l'opération a produits dans notre vie de tous les jours. Ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est une reprise d'une solution qui n'a pas marché la première fois. La facture sera quand même présentée aux femmes. Encore. Est-ce que je suis comme Guy Turcotte ? C'est la question que se pose ce matin Mylène Moisan dans sa chronique parue dans Le Soleil en ce 19 septembre 2014. On a tous une opinion de Guy Turcotte, pas vraiment de lui, plutôt de ce qu'il a fait, de la façon dont il l'a fait, de pourquoi surtout. On peut être incapable de concevoir qu'un être sain d'esprit en arrive à poignarder de sang-froid ses propres enfants, ce qui rejoint le verdict de non-responsabilité criminelle ou encore arguer que les apparences sont parfois trompeuses, que cet homme respecté qui avait tout du bon père de famille était aveuglé à ce point par la jalousie qu'il a exécuté la plus abjecte des vengeances. On essaie de se mettre dans sa tête. Sophie en est presque capable. Le titre du message qu'elle m'a écrit cette semaine m'a intriguée. Un peu de bleu dans le ciel noir du cas de Guy Turcotte, comme si elle voulait éclairer le néant avec une lampe de poche. Elle voulait me raconter son histoire, simplement. Toutes les fois qu'elle entend parler de Guy Turcotte, ça veut dire très souvent, elle se dit que ça aurait pu être elle, pas Guy, la petite Anne-Sophie. Elle avait 8 ans. Elle revenait de l'école avec sa sœur, 2 ans plus jeune. La police et les ambulances étaient là, autour de mon bloc, mais jamais je n'ai fait le lien avec mon appartement. Je suis entrée par la porte arrière, comme d'habitude, mais ma mère n'était pas là. Les policiers étaient là. Ils attendaient les deux petites filles. Ils les ont emmenées, sans un mot d'explication. Nous sommes partis au centre jeunesse et nous avons été placés 2 mois en famille d'accueil. Le pire était de ma vie. Je ne savais pas où était ma mère. Elle était à l'hôpital. 2 mois plus tard, Sophie et sa sœur sont revenues à la maison comme si rien ne s'était passé. Les fillettes ont retrouvé leur mère qui était un peu mieux qu'avant. Avant, elle était absente, comme dans la brume. Elle faisait beaucoup de siestes, elle trouvait ça difficile de prendre soin de nous. Sa mère s'occupait seule de ses enfants, elle se chicanait souvent avec le père. Un jour, 5 ou 6 ans après cette journée où elle s'était volatilisée, la mère de Sophie a révélé son secret à ces filles-là. « Ce jour-là, je voulais vous tuer. » Elle était en psychose, obsédée par cette idée. Elle nous a raconté que le matin, quand elle s'est levée, elle ne se sentait pas bien. On est parti pour l'école, puis cette idée lui est venue. « Il faut que je tue mes enfants », c'est devenu une obsession. L'heure avançait, ces filles allaient bientôt revenir de l'école, retrouver leur maman sans se douter de ce qui les attendait. La mère de Sophie a saisi le téléphone, elle a composé le 911. Elle a eu comme un instant de lucidité. Elle a réussi à appeler à l'aide. Les policiers sont arrivés rapidement, ont compris le drame qui a failli se jouer. Ils l'ont écoutée, ils l'ont cru, ils l'ont emmenée dans un hôpital psychiatrique pour qu'elle se fasse soigner. Si elle n'avait pas pris le téléphone, les policiers auraient été appelés quelques heures plus tard. Quelques heures trop tard. Je suis vraiment très chanceuse, ma sœur aussi. On est très proche de ma mère, je lui ai pardonné. Elle, elle s'en veut encore, elle a de la misère à faire la paix avec ça. Chaque fois que le nom de Guy Turcotte ressort, ma mère me demande si elle a été une bonne mère et si elle est comme Guy Turcotte. « Non, elle ne l'est pas », je lui réponds chaque fois. 2 différences au moins. Guy Turcotte a tué ses enfants. Guy Turcotte a l'air d'avoir fait la paix avec ça. À chaque fois que j'entends des experts qui disent que Guy Turcotte avait des symptômes d'une dépression et d'un état psychotique, c'est un coup au cœur au courage de ma mère. J'espère qu'on verra au-delà de la manipulation de cet homme et que l'honneur, en quelque sorte, des personnes réellement malades qui souffrent de psychose ou autres maladies mentales sera sauf. Je suis allée rencontrer Sophie à son boulot. J'aurais dû l'appeler. J'avais le goût de voir en chair et en os cette femme qui apprécie chaque jour la chance qu'elle a d'être en vie. Chance qu'Olivier et Anne-Sophie n'ont plus. J'y pense souvent, c'est sûr. Il a fallu beaucoup de courage à ma mère pour appeler à l'aide. Beaucoup de force pour s'en sortir. Aujourd'hui, elle est soignée, elle va bien. C'est ça, le bleu dans le ciel noir. Évidemment, le prénom de Sophie, fallait-il le préciser, a été changé par Mylène Moisan qui signait ce papier dans le soleil ce matin. Est-ce que je suis comme Guy Turcotte ?